L'actualité des Alpes du Sud, les Alpes de Haute-Provence vont plus loin encore que la loi Egalim.
Une loi qui fixe une distance de sécurité dans l'aspersion des produits phytosanitaires. Une charte, la première de la région PACA, réglemente l'usage de pulvérisateurs avec des buses antidérives, de quoi réduire de moitié encore les distances de sécurité.
C'est la fin de la grève au sein de la gare de Gap.
Une grève entamée il y a 10 jours alors que l'amplitude d'ouverture du guichet avait été divisée par 2 et que les agents exerçaient seuls sans chef d'équipe. Un effet sera détaché pour être agent commercial manager. Autre avancée, les guichets à Chorges, Serres, Aspres-sur-Buëch et Sisteron seront ouverts du premier au dernier train.
En revanche, dans le volet éducation nationale, on se montre vigilant dans les Alpes d'Haute-Provence.
La carte scolaire pour la rentrée prochaine est encore en discussion. Elle pourrait acter la fermeture de 9 classes et l'ouverture de 6 autres. Si la SNUIPP reconnaît une meilleure justice et une meilleure répartition, elle estime que la dotation est toujours insuffisante.
Être pompier volontaire, c'est également l'affaire de l'employeur.
Car quand son agent doit partir rapidement en secours, il faut que l'employeur soit aussi volontaire. Dans les Hautes-Alpes, des conventions de disponibilité sont signées avec les entreprises et les collectivités. Ces dernières ont d'ailleurs tout à gagner car les cotisations aux SDIS diminuent en cas de convention et puis certaines autres collectivités vont plus loin en ouvrant des garderies pour les pompiers volontaires appelés en urgence.
Et puis cette information qui va vous rendre jaloux.
Il a remporté le jackpot. 750 000 euros ont été remportés à Digne-les-Bains au Mégagol. Le ticket a été validé le 1er février. Et c'est un grand soleil.
Ah oui, alors le ciel quand même partagé encore ce matin entre éclaircies et passages nuageux sur les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence, mais les périodes ensoleillées vont augmenter au fil des heures et elles seront plutôt belles aujourd'hui. Alors les températures sur les Hautes-Alpes, ça s'échelonne de 10 à 14 degrés et les maxis sur les Alpes de Haute-Provence de 12 à 16 degrés. À la une de l'actualité, les maires ne pourront pas réglementer l'usage des produits phytosanitaires sur leur commune.
Une décision du Conseil d'État au 31 décembre dernier qui a laissé beaucoup d'amertume chez certains édiles. Dans les Alpes du Sud, souvenez-vous de cette vague d'arrêtés municipaux anti-pesticides. On se souvient notamment des cas de Revesse-des-Brousses ou encore d'Aubenas-les-Alpes où les arrêtés avaient été retoqués par la justice. Pourtant, aujourd'hui, les territoires doivent répondre à la loi Egalim qui prévoit de renforcer la protection des riverains face à l'utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs. Concrètement, des distances de sécurité doivent être respectées. Pas d'aspersion à moins de 10 mètres des habitations pour les arboriculteurs et les viticulteurs. C'est 5 mètres pour les autres utilisations agricoles. Dans les Alpes de Provence, on veut aller plus loin encore avec une charte d'engagement présentée cette semaine. C'est la première au niveau régional. Grâce à l'usage de pulvérisateurs avec des buses antidérives, les distances de sécurité sont encore réduites, passant de 10 à 5 mètres et de 5 à 3 mètres. Et puis le bio a aussi le vent en poupe et les Alpes d'Haute-Provence connaissent une envolée des reconversions. Un peu de pédagogie est toutefois nécessaire, selon Frédéric Esmiol, le président de la Chambre d'agriculture des Alpes d'Haute-Provence.
Un département comme le nôtre, aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 agriculteurs. Donc ça représente un agriculteur sur 4 qui est orienté vers l'agriculture biologique. Ça représente un peu plus de 25% de notre superficie départementale. Si on se compare d'une année sur l'autre, c'est à peu près 6,5% de progression par an. Et après, et c'est quelque chose dont je tiens absolument, c'est qu'effectivement, si c'est important aujourd'hui de répondre à cette attente du consommateur, mais en aucun cas, il faut nous opposer les uns les autres. On a besoin d'expliquer que l'agriculture basalpine est une agriculture de qualité, diverse et variée, et que l'agriculture bio, effectivement, fait partie de ces fleurons, mais comme aujourd'hui, les exploitations qui sont en train de se reconvertir en haute valeur environnementale, qui est aussi un autre signe de qualité et de garantie de nos produits.
Dans le même temps, une nouvelle cartographie des cours d'eau a été présentée. Cette carte affinée permet de mieux renseigner la police de l'eau, et notamment ses réglementations en matière d'installation ou d'activité.
On est parti à l'origine d'une carte qui avait plus de 13 000 km. On est arrivé à une carte qui est autour de 6 500 km, donc à peu près la moitié. Ce qui a permis d'élaborer une guide d'utilisation donc pour le commun des mortels, que ce soit l'irrigant, enfin l'agriculteur, l'irrigant, le riverain, la collectivité, qui connaissent la réglementation lorsqu'il veut effectivement faire de l'élagage, du nettoyage dans un cours d'eau, traverser un cours d'eau. C'est soumis à certaines pratiques et certaines obligations. Et bien, l'idée de cette carte, c'était effectivement fixer les cours d'eau qui devaient rentrer dans les critères réglementaires et puis mettre les règles en fonction de cela pour justement être en phase avec la loi.
Cette cartographie reste évolutive et sera amenée une nouvelle fois à changer selon certains critères comme la pluviométrie.
Il aura fallu 10 jours pour les syndicats afin d'obtenir gain de cause.
Fin de grève au sein de la gare de Gap alors que la SNCF a promis la notation d'un agent sur le poste d'agent commercial manager. Les grévistes se plaignaient de la réorganisation mise en place par la direction depuis le 1er février qui divisait par deux l'amplitude horaire du guichet de la gare avec surtout 7 agents qui se retrouvaient à tour de rôle seuls à ce poste et sans chef d'équipe. Dans le même temps, la CGT annonce le maintien de la vente, de l'accueil et du renseignement au public du premier au dernier train pour les gares de Chorges, Serres, Aspres-sur-Buëch et Sisteron. Le syndicat reste cependant inquiet pour Embrun, Mont-Dauphin et l'Argentière-l'ABC qui n'ont pas bénéficié des mêmes annonces de la part de la direction de ligne.
Le comité départemental de l'éducation nationale reporté après les vacances de février dans les Alpes de Haute-Provence.
Suite à des difficultés techniques, ce mercredi, la préfète a décidé de son report et d'une tenue la prochaine fois en présentiel. Le comité départemental devrait donc avoir lieu le 10 mars prochain. Il sera question de la carte scolaire de la rentrée prochaine. La prochaine carte pourrait d'ailleurs valider l'ouverture de 6 classes aux écoles Les Tilleuls et Les Plantiers à Manosque, les écoles élémentaires de Villeneuve et de Valbelle, l'école primaire de Saint-Michel-l'Observatoire et l'école internationale de Manosque. Par contre, 9 classes pourraient fermer au sein des écoles maternelles d'Aimé, d'Oraison, de Perhuis, et au sein des primaires de Quinçon, La Brianne, Curban, Pépin, Les Ferréoles et Paul Martin à Digne-les-Bains. Par contre, aucune école ne fermera. Si Stéphane Boutor, co-secrétaire départemental du syndicat SNUIPP04, salue un travail d'écoute mené par l'inspection académique, il estime que la dotation générale est largement insuffisante.
La dotation générale est nettement insuffisante. Il se trouve que la répartition de la pénurie risque d'être plus équitable qu'elle ne l'a été l'an passé. Les points pour nous qui sont absolument pas normaux, c'est les écoles fragiles qui sont attaquées et qui sont menacées de fermeture de classe. Et là, on évoque des écoles qui étaient encore, il n'y a pas longtemps, en éducation prioritaire. On a des écoles comme la maternelle de Paul Langevin au Mai, comme la maternelle de Perhuis, comme l'école primaire des Céréoles à Digne, de Paul Martin à Digne, ou de Freinet à Château-Arnoux, ou de Lapi à Château-Arnoux, qui sont menacés soit de fermeture de classe, soit de ne pas ouvrir, alors même que ce sont des écoles qui méritent des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, ce sont toutes ces écoles-là qui d'un seul coup sont ciblées, et donc on voit bien la logique du pouvoir actuel, c'est de ne pas chercher à donner plus à ceux qui ont besoin de plus.
Une motion contre la fermeture des classes a été votée mercredi soir à l'unanimité par les élus de Provence-Alpes-Agglomération.
Être pompier volontaire demande parfois à l'employeur de s'adapter.
Car en cas de secours, il faut que l'effectif puisse partir rapidement. Une contrainte qui freine parfois, notamment dans les Hautes-Alpes. Le département compte 1200 pompiers volontaires, mais le manque est le plus criant en journée. C'est en effet à ce moment-là qu'il est plus compliqué pour un pompier qui travaille de quitter son poste. Des conventions de disponibilité se multiplient donc sur le territoire. 8 ont été signées mercredi avec des entreprises privées, mais aussi des collectivités territoriales, à l'image de la communauté de communes du Guillestre-Aquerrat et la commune de Guillestre. Cela marque la volonté de ces collectivités de faciliter les missions des pompiers volontaires, d'autant que le système est gagnant-gagnant, comme le souligne Marcel Cana, président du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
On s'aperçoit que pour nous, ces conventions, quand elles sont en place, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que l'employé qui est signataire de la convention, c'est à lui à faire la part des choses, s'il faut qu'il quitte son travail ou non. S'il n'est pas conventionné, il faut qu'il appelle son patron ou alors son supérieur hiérarchique pour savoir s'il peut partir, s'il peut pas partir. Quand vous avez en face un malaise cardiaque, chaque seconde compte, quoi. Donc, si le pompier est conventionné, il va savoir qu'il peut partir. Je rappellerai aussi que à partir du moment où une collectivité signe une convention avec le SDIS, on baisse, nous, il y a un pourcentage, on baisse la cotisation que la collectivité doit donner au SDIS. Bien entendu, on donne aussi des avantages à ces collectivités s'ils doivent former leur personnel communal, s'ils doivent faire un piquet d'incendie, s'ils doivent participer à un feu d'artifice ou autre. C'est des interventions qui seront en retour gratuites données aux collectivités. Donc, c'est des conventions gagnant-gagnant.
Une nouveauté a aussi vu le jour il y a quelques semaines. Deux communes, celle de La Bâtie-Neuve et de Chorges, ont mis en place un système de garderie pour les enfants des pompiers volontaires lorsque ceux-ci sont en intervention.
Il y a des personnes qui ont leur enfant à garder, des pompiers, qu'elles soient femmes ou hommes, gardent leur enfant et ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont les enfants gardés. des communes comme La Bâtie ou comme Chorges disent, quand vous allez partir, vous nous emmenez votre enfant à la garderie pour qu'on puisse garder votre enfant et que vous puissiez accomplir votre mission de secours. On voit que les collectivités sont plus que solidaires avec nous pour dire il faut qu'on aide les pompiers. Il y a vraiment, vous voyez, une solidarité qui se crée, qui est relativement importante.
Un dossier réalisé par Aurore Valory.
Et voici une information qui vous fera dire « Et pourquoi pas moi ?»
750 000 euros ont été remportés à Digne-les-Bains. Le ticket gagnant du Mega Goal a été validé le 1er février dernier au tabac Le Longchamp. La Française des Jeux rappelle que de gros gains ont déjà été remportés sur le département des Alpes-de-Provence. Un chanceux a gagné en 2009 à Volx 17 millions d'euros. C'était lors du Super Loto. 5 et 3 millions d'euros ont été gagnés sur Digne au Loto par deux personnes. Et tout récemment, c'était en novembre dernier, c'est 1 million d'euros qui a été remis à Manosque grâce au jeu Qui veut gagner des millions.
Carnet rose, avec un petit jipéton qui vient de voir le jour en Haute-Romanche.
La naissance était attendue depuis plusieurs semaines par les équipes du Parc National des Écrins. L'oisillon est sorti de son œuf entre le 15 et le 16 février. La couvaison avait été entamée le 25 décembre par un couple de 3 jipettes barbus. Vous avez bien entendu, les ménages à 3 ne sont en effet pas exception, puisqu'ils faciliteraient la couvaison et permettraient de se relayer pour aller chercher à manger pour le jipaéton. Cette naissance est un véritable événement, car c'est la 4e fois que ce trio entreprend une reproduction. Le parc indique qu'après 2 succès entre 2018 et 2019, le jipaéton né l'an dernier n'avait pas survécu. Notez que durant la couvaison et l'élevage du jeune, l'espèce est très vulnérable. Une réglementation spécifique est donc mise en place par le parc. Les survols sont interdits dans la zone tampon, dans la zone de sensibilité majeure et toute activité humaine est interdite.
Alpes 1 Sport. Alpes 1 Sport.
Avec un nouveau week-end sportif.
Et du ski alpin, du ski cross, du snowboard cross et surtout le Freeride World Tour qui fait son retour avec 4 représentants des Alpes du Sud, Christophe Lourenço.
Alors que les deux premières étapes prévues au Japon et au Canada ont été annulées à cause de la crise sanitaire, la saison 2021 du Freeride World Tour donne finalement son coup d'envoi ce vendredi à Ordino Arcalis en Andorre, un rendez-vous auquel Vadek Gorak ne pensait pas participer, mais le bas alpin a eu la bonne nouvelle de recevoir une wild card pour remplacer un concurrent blessé. L'enfant du Sauze accompagnera dans la catégorie ski le natif du Val d'Alos, Maël Olivier, qui rejoint cette année l'élite de la discipline. Pour Juliette Willman, qui a grandi à Barcelonnette, c'est une seconde saison au plus haut niveau mondial qu'elle aborde avec beaucoup d'ambition. Au snowboard, le briançonnais Hugo Serra complète la délégation locale en prenant pour la première fois de sa carrière le départ d'une course du Freeride World Tour. Snowboard toujours, avec Alexia Kirel, une nouvelle fois arrêtée en quart de finale. Après une première participation au championnat du monde la semaine dernière à Hydrofial, la Haute Alpine a retrouvé ce jeudi le chemin de la Coupe du Monde de snowboard cross à Reiteralm en Autriche comme en Suède. La licenciée du club de Serre Chevalier n'a pas pu franchir la barre des quarts de finale et décroche la 16e place de cette première course post-mondiale. On reste en Autriche pour une autre épreuve de Coupe du Monde, mais de ski cross cette fois-ci. Après sa récente médaille de bronze au championnat du monde, Alizé Baron veut fructifier ce très beau résultat sur le circuit mondial, également 3e du classement général de la Coupe du Monde. La champ sorine talonne la canadienne Marielle Thompson avec 48 points de retard et espère donc grappiller une place sur le podium avec une belle performance ce vendredi. Bien loin de ses considérations, Terence Chiknavorian a connu une saison compliquée à cause des blessures et est de retour en Coupe du Monde après une 9e place début février sur le circuit européen à Crans-Montana en Suisse. Et on termine par de la Ligue Magnus avec les Rapaces de Gap qui vont devoir enchaîner 2 rencontres en moins de 48 heures alors que l'infirmerie est bien remplie avec 4 joueurs sur le flanc. Malgré ses absences, les hommes d'Éric Blais se déplacent ce vendredi à 20h sur la glace des Brûleurs de Loup de Grenoble avant de retrouver la formation iséroise le 2 mars prochain. C'est la date qui a été fixée pour la rencontre reportée du 5 février dernier à cause d'un cas positif à la Covid-19 dans les rangs gapensés. Pour conclure ce week-end, les Rapaces retrouveront ce dimanche la patinoire de l'Alpe Arena avec la réception des Jokers de Sergi Pontoise à 18h30. De leur côté, vainqueur du derby des Hautes-Alpes la semaine dernière, les Diables Rouges de Briançon vont tenter de confirmer ce succès de prestige lors de son court déplacement sur la glace des Aigles de Nice ce vendredi, coup d'envoi à 19h.
Merci Christophe. Et puis Suédoise sur le maillot, mais au Alpine de naissance, Estelle Alphand a conclu ce jeudi le programme dantesque qu'elle s'est concocté à l'occasion des championnats du monde de Cortina d'Ampezzo. Après une très belle médaille d'argent conquise lors du Team Event de mercredi, la Briançonnaise a été moins performante hier lors du géant avec une honorable 24e place. Une dernière course pour la fille de Luc Alphand qui avait décroché en cette quinzaine italienne la 13e position du slalom parallèle mais n'a pas été classée lors du Super G et du combiné alpin.
Enfin, pour les sportifs amateurs, tyroliennes, passerelles himalayennes ou encore pont de singe, la Via Ferrata du Rocher de 9h ouvre ce samedi à Digne-les-Bains.
192 000 euros ont été investis par Provence-Alpes Agglomération avec le soutien de l'Europe, de l'État, de la région et du département. Des travaux qui ont permis d'augmenter d'un tiers cet itinéraire. Désormais, la Via Ferrata mesure 750 mètres avec trois parcours en fonction des difficultés. 7 points de découverte sur les oiseaux et les chauves-souris en falaise. Une terrasse d'interprétation sur le thème des vautours ont été mises en place. Et notez que cette Via Ferrata est gratuite.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.